15h à Paris, 14h en temps universel. Vous écoutez RFI, il était une fois le journal. Florent Guignard, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à toutes. À la une, la pression diplomatique sur le Rwanda qui soutient les rebelles du M23 alors que le président congolais Étienne Tshisekedi doit s'adresser aujourd'hui à la nation. 30 morts désormais, c'est le dernier bilan de la bousculade pendant un pèlerinage hindou en Inde. On parlera également dans ce journal de l'expulsion par Israël de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Signal entre en vigueur demain. Et puis l'expulsion en France d'une élève originaire du Burkina Faso. Les gendarmes sont venus l'arrêter à l'intérieur de son collège. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez le club de C'est pas du vent. Sa parole était attendue depuis que les rebelles du M23 s'approchaient de Goma, la grande ville de l'est du Congo, Kinshasa. Le président congolais Étienne Tshisekedi va s'adresser à la nation aujourd'hui, alors qu'il a refusé de se rendre à un sommet des pays d'Afrique de l'Est où une rencontre avec son homologue rwandais Paul Kagame était prévue. Alors, par ailleurs, que l'ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs a affirmé aujourd'hui que les rebelles du M23 allaient continuer d'avancer au-delà de Goma, une situation qui évidemment inquiète la communauté internationale. Esdras Dinkumana, la pression s'accroît sur le Rwanda pour son soutien au M23.
Oui, signe de cette grande inquiétude, Florent, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur cette question cette nuit pour la deuxième fois en 3 jours. Et cette fois, la Chine s'est jointe pour la première fois au pays qui demande à Kigali de retirer ses troupes de la RDC. Restent aujourd'hui 5 pays dont la Russie et les 3 pays africains du Conseil qui se refusent à désigner le Rwanda comme responsable. C'est une position plutôt conforme à celle du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui n'a pas pointé encore une fois aux grandes dames de Kinshasa le rôle du Rwanda dans cette guerre lors de sa réunion tenue en toute urgence hier à Addis Abeba.
Esdras, il y a aussi le rôle des États-Unis après avoir appelé Félix Tshisekedi il y a 2 jours, le chef de la diplomatie américaine a appelé cette nuit, la nuit dernière, le président rwandais.
Marc Rubio a exhorté Paul Kagame à un cessez-le-feu immédiat dans la région avant d'appeler au respect par toutes les parties de l'intégrité territoriale souveraine de la RDC selon le département d'État. Le président rwandais, lui, a salué une conversation qu'il a qualifiée de productive en évoquant sur X la nécessité d'assurer un cessez-le-feu dans l'est de la RDC et de s'attaquer, a-t-il dit, aux causes profondes du conflit une fois pour toutes. Enfin, premier pays à aller plus loin que de simples exhortations verbales, l'Allemagne, qui vient de mettre sur pause des discussions avec Kigali sur son aide au développement. Mais on est encore très loin de la pression qui avait été exercée sur le Rwanda et l'avait poussé à cesser son soutien au M23 lorsqu'il s'était emparé de Goma pour la première fois en 2012.
Esdras Dinkumana du service Afrique de RFI, également dans l'actualité africaine aujourd'hui, le départ officiel du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui ne compte plus désormais que 12 pays membres. Au Sud-Soudan, un accident d'avion, moins 20 morts, il n'y aurait qu'un seul survivant. L'appareil s'est écrasé juste après le décollage. Le bilan s'est alourdi en Inde après la bousculade sur le grand pèlerinage hindou de la Kumbh Mela. 30 morts et 90 blessés hospitalisés désormais. Le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé ses plus sincères condoléances aux proches des victimes. 2 Palestiniens tués en Cisjordanie par l'armée israélienne. C'est le gouvernement de l'autorité palestinienne qui l'annonce. 1 mort, notamment à Jenin, où Israël mène une grande opération militaire qui a fait au total 16 morts. Guerre de communiqués entre Israël et le Hamas, qui a accusé aujourd'hui le gouvernement israélien d'empêcher l'accès de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Réponse Israël, ce sont des fake news, une certitude. En revanche, c'est bien demain que l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les travailleurs, pour les réfugiés palestiniens, sera officiellement bannie. Israël vient de redire, je cite, que l'UNRWA regorgeait de membres du Hamas. En tout cas, l'agence de l'ONU doit évacuer ses bureaux de Jérusalem, ce qui aura des conséquences pour l'aide aux Palestiniens de Gaza, précisément à Genève, Jérémy Lanche.
Les missions de l'UNRWA vont de la santé à l'aide humanitaire en passant par l'éducation, son cœur d'activité. Israël souhaiterait que d'autres agences désormais s'en chargent, mais personne dans la galaxie onusienne n'est capable de la remplacer auprès des quelques 6 millions de réfugiés palestiniens de la région. Le nom du programme des Nations Unies pour le développement revient souvent dans la presse israélienne. Problème, si le PNUD a bien 23 000 employés, c'est pour 170 pays. C'est aussi exclu pour le Bureau de la coordination des affaires humanitaires qui, comme son nom l'indique, coordonne seulement l'aide, mais n'en est pas responsable. Jens Lark, son porte-parole, a encore redonné son sentiment hier à Genève.
On soutient totalement l'UNRWA. C'est la colonne vertébrale de toutes les opérations humanitaires. Pour la logistique, la santé, l'éducation, personne ne peut remplacer l'UNRWA. Il y a encore des milliers d'employés qui travaillent sur place. Il y en a des centaines qui sont morts à leur poste depuis 15 mois. L'UNRWA est un rouage essentiel de l'humanitaire. Elle doit rester.
L'UNRWA, c'est à peu près 30 000 employés, un peu plus de 5 000 qui travaillent au bureau de Jérusalem. Mais le sort de leurs collègues dans le reste des territoires occupés est également en suspens. Car comment distribuer de l'aide à Gaza avec le tampon UNRWA si celui-ci n'est plus reconnu par Israël ou si les comptes bancaires de l'agence sont bloqués? Aujourd'hui, la moitié de l'aide alimentaire qui parvient aux Gazaouis l'est par le biais de l'UNRWA. Jérémy Lange, Genève, RFI.
Une mère et son enfant ont été tués en Russie dans la région de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine. C'est le bilan d'une attaque massive de drones menée par l'Ukraine. Une attaque qui a visé en particulier des installations pétrolières et électriques russes. Moscou a même affirmé qu'une centrale nucléaire avait été visée, mais sans faire de dégâts. Alors que l'éventualité de négociations de paix revient sur le devant de la scène, le ministère des Affaires étrangères biélorusse a organisé un voyage de presse à la frontière avec l'Ukraine, précisément dans la zone où les soldats russes étaient passés en février 2022 pour envahir l'Ukraine. Message délivré, oui, c'est encore la guerre, mais elle pourrait se terminer. Envoyé spécial Anissa El-Jabri.
Duty free fermé, presque fantôme, et dispositif d'alerte maximale, garde frontière avec fusil anti-drone, chien détecteur d'explosifs. Au poste frontière de Novaya Gouta, c'est pourtant désormais le calme plat et Anton Bikovski, le porte-parole des gardes frontières de Biélorussie, se projette déjà dans l'après-guerre en Ukraine.
À l'époque où la frontière était ouverte, il passait en moyenne chaque jour 5000 personnes et 2000 véhicules en hiver, 17 000 personnes et 8 000 voitures en été. Nous sommes prêts à n'importe quel moment à organiser le passage des personnes et des véhicules dans les mêmes proportions.
Quelques pas sur cette route, davantage de sentinelles qui patrouillent, puis la consigne de s'arrêter au bout, visible à l'œil nu, des barbelés en hauteur, un panneau jaune et bleu. En lettres capitales, on lit « Ukraine ». C'est ici que passent les si discrets échanges de prisonniers, un des très rares sujets de dialogue direct entre Moscou et Kiev.
Lorsque le frère du milieu se dispute avec l'aîné, notre rôle en tant que petit frère est de faire tout notre possible pour remettre de l'ordre dans la famille. Je pense que les peuples russes, biélorusses et ukrainiens savent que tôt ou tard, tout se remettra en place. Toute guerre se termine par des négociations et la paix.
Une métaphore familiale en droite ligne avec ce que martèle le Kremlin sur des pays qu'il juge frères. Le dirigeant biélorusse, lui, a assuré dimanche ne pas chercher une place à la table d'éventuelles négociations de fin de conflit, mais il juge aussi que son pays doit être impliqué dans tout dialogue, toujours sur une ligne de crête diplomatique à l'ombre de Moscou. Anissa El-Jabri, Novaya Gouta, RFI.
On en vient maintenant en France à l'expulsion d'une élève née au Burkina Faso. Les gendarmes, c'était la semaine dernière, sont venus l'arrêter dans son collège, Amélie Beaucourt.
Il est 9h du matin lorsque la direction de ce collège près de Metz, en Moselle, est prévenue par les gendarmes de leur arrivée. Une élève de 3e est isolée du reste de sa classe au moment de la récréation et discrètement emmenée par les forces de l'ordre. Dans la foulée, elle sera raccompagnée, elle, sa maman et son petit frère, demandeurs d'asile originaires du Burkina Faso, à la frontière belge. Armel Gardien, du réseau Éducation sans frontières, s'inquiète de cette intervention policière à l'intérieur de l'école.
Je voudrais quand même rappeler qu'en 2005, Nicolas Sarkozy avait prescrit de ne pas intervenir dans les écoles et aux alentours. Et Manuel Valls, à l'époque ministre de l'Intérieur en 2013, a repris la même préconisation. Là, c'est un retour en arrière absolument inquiétant. qui montre que ce gouvernement s'assoit sur un certain nombre de dispositions qui ont été prises par les mêmes personnes.
Plusieurs syndicats et associations appellent à manifester devant la préfecture de Moselle, à Metz, ce jeudi, pour rappeler l'interdiction des interventions policières à l'école lors de procédures d'éloignement.
Il est 15h10 à Paris, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, sur RFI, le club de C'est pas du vent.